Danse avec les maths.
Premier numéro, les nombres premiers. Chers auditeurs et amis de tous horizons, bonjour. L'autre jour, en me baladant dans les jardins Descartes, par un après-midi morne et tristement nuageux, que seuls les mouflons ensoleillés, je rencontrai Corentin, un scientifique, de Mono, que j'avais connu un peu plus tôt. Nous décidons de marcher ensemble lorsque nous tombons sur Alexander, assis sur un banc qui semble complètement absorbé dans son travail. Cette rencontre allait s'avérer très riche d'enseignements pour Corentin et moi-même. Voici comment cela s'est passé.
Tiens, mais qui voilà ? Salut Alexander !
Salut Corentin !
Je te présente Pauline, elle fait de la recherche en philosophie.
Je suis spécialiste d'éthologie axiologique, asymptotique et éthiologique, à visée épistémologique de connaissance d'Andros, l'homme, en ses traits ontologiques, métaphysiques et éthiques, sans oublier la part méthodologique. Parce que la méthode, c'est ce qu'est encore ce qu'il y a de plus important. Enchanté ! Tu travailles sur quoi ?
J'essaye de définir une notion d'homologie symplectique cohérente sur les anneaux locaux finiment engendrés.
Alexander est chercheur en mathématiques. On s'est rencontré à un séminaire d'ingénierie électronique.
Dans lequel je ne remettrai plus jamais les pieds, sans vouloir t'offenser.
Waouh, hein. Wow, un mathématicien ! Mais au fait, que fait un mathématicien véritablement ?
Un mathématicien est une machine qui transforme du café en théorème. Citation de Paul Erdős, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle.
Mouais, autant dire rien. Les mathématiques ne sont que des spéculations et n'ont plus aucune application pratique de nos jours. C'était vrai au temps des Grecs où on étudiait des concepts simples, comme la géométrie, ou à l'époque de Leibniz et Newton avec l'invention du calcul différentiel.
Alors les mathématiques ne servent à rien ? Si c'est le cas, à quoi bon continuer à les enseigner et à financer la recherche dans ce domaine ? Il ne m'en reste pas toujours de très bons souvenirs du collège et du lycée.
C'est parce qu'ils ne sont pas toujours enseignés de la meilleure façon qui soit. Mais notre ami, amoureux de la technique, sait très bien que les mathématiques sont encore utiles aujourd'hui. Il en aura juste de n'y rien comprendre. En tant que mathématicien, j'aimerais vous démontrer qu'il est possible d'y prendre du plaisir et voir avec vous comment les mathématiques actuelles s'appliquent de nos jours.
Tu parles comme tel. On y va en douceur ?
J'ai pensé à différents thèmes que nous pourrions aborder ensemble, à notre rythme.
Alors c'est parti. Tu as du feu, Pauline ? J'ai apporté les joints.
Il y a beaucoup de sujets extrêmement intéressants que nous pourrions aborder. Les géométries non euclidiennes, le hasard, les nombres premiers...
Les nombres premiers. J'ai lu un truc ce matin dessus. Je crois que j'ai l'article dans mon sac, attends que je le ressorte. Ah, le voilà. Le 25 janvier 2013, le mathématicien Curtis Cooper et son équipe de l'Université du Missouri Central découvraient le plus grand nombre premier jamais connu, 2 puissance 57 885 161 -1. Ce résultat est le fruit d'un travail de plusieurs années mené dans le cadre du Great Internet Mason Prime Search qui fait collaborer des ordinateurs de nombreux bénévoles en parallèle.
Attends, des années pour trouver un nombre ?
Oui, les nombres premiers sont d'une importance capitale pour notre société.
D'accord, mais déjà, c'est quoi un nombre premier ? Ah, mais oui ! Un nombre premier, ce n'est pas un nombre qui n'est divisible que par un et par lui-même ? Ah, Corentin, je te vois admiratif de mon savoir.
La définition que tu proposes, Pauline, est presque bonne, mais on a envie d'exclure un pour des raisons qu'on verra plus tard. Du coup, on dit qu'un nombre premier est un nombre naturel ayant exactement deux diviseurs. Un et lui-même.
Donc peut-être quelque chose comme 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Et ça ne s'arrête jamais finalement.
Non, jamais. C'est un des premiers théorèmes mathématiques de l'histoire, l'infinité des nombres premiers. On ne sait pas qui était le premier à le démontrer rigoureusement, mais c'est normalement attribué à Euclide, mathématicien grec qui a vécu vers 300 avant notre ère. Sa démonstration est très instructive et utilise une méthode dite « par l'absurde ». Cette méthode se résume bien dans une citation de Sherlock Holmes. Une fois qu'on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela soit, doit être la vérité. Supposons en effet qu'il n'y a qu'un nombre fini de nombres premiers. Alors on peut les numéroter x1, x2, jusqu'à xn. Puis on regarde le successeur du produit de ces nombres. C'est-à-dire, je regarde le nombre 1 plus x1 fois x2 fois x3, etc. jusqu'à fois xn. C'est encore un nombre, et on voit que tous les xk ne le divisent pas, car ils divisent le prédécesseur. Ces nombres admettent donc un facteur, qui est un nombre premier, qui n'est pas dans notre liste initiale.
Donc, si je prends le nombre premier dont on parlait au début, 2 puissance 57 885 161 moins 1, je peux être sûr qu'il en existe d'autres après.
Ça laisse songeur. Quand on pense que si on voulait écrire tous les chiffres de ce nombre, il faudrait l'équivalent de 6 exemplaires de la Bible.
Comme si une ne suffisait pas.
Mais ce qui rend ces nombres si importants, c'est qu'ils interviennent en permanence dans notre quotidien.
Tu veux dire comme entité à part entière, existant indépendamment de notre pensée ? Le monde contemporain aurait finalement la réponse à... Attention, je vais sortir encore un mot barbare. La question du statut ontologique des mathématiques ?
Hélas, non. Mais la réalité n'en est pas moins excitante. Les nombres premiers sont à la base de nombreux systèmes de cryptage modernes.
Ah oui, tu veux dire pour transmettre des messages sans que d'autres personnes puissent les lire ?
C'est ça. Il existe beaucoup de manières de crypter un message, mais les plus fiables aujourd'hui reposent sur la décomposition en nombres premiers.
Oui, cette fameuse décomposition en nombres premiers fait que les nombres premiers sont en quelque sorte les briques de l'arithmétique, c'est-à-dire les briques des nombres entiers.
Et les nombres entiers sont omniprésents. Tout est nombre, comme disaient les pythagoriciens.
Tout à fait. Et pour comprendre un bâtiment, il faut comprendre comment il est construit. Le théorème de la décomposition en nombres premiers s'énonce ainsi. Tout nombre entier s'écrit comme un produit de nombres premiers, et ce de manière unique. Pour trouver la décomposition en nombres premiers d'un entier, c'est très simple. Si tu prends un nombre particulier, alors soit il est déjà premier, soit il est produit de deux nombres. Maintenant, tu recommences cet algorithme avec ces deux nombres.
Attends, tu peux donner un exemple ?
Bien sûr. Si tu prends 12, par exemple, je vois que 12, c'est 3 fois 4. Donc je recommence avec 3 et 4. Or, 3 est déjà un nombre premier, et 4, c'est 2 fois 2. Et 2, c'est un nombre premier. Du coup, on peut dire que 12, c'est 3 fois 4, donc aussi 3 fois 2 fois 2, un produit de nombre premier. Donc l'existence de la décomposition en nombres premiers est facile. Ce qui est plus fort est l'unicité. À part l'ordre des facteurs, il n'existe qu'une seule manière d'écrire un nombre comme produit de nombres premiers. C'est pourquoi on aimerait exclure un des nombres premiers, sinon cette décomposition en nombres premiers ne serait pas unique.
Qu'est-ce que cela signifie pour notre exemple avec 12 ?
Ça signifie que 12 s'écrit comme 3 fois 2 fois 2, mais aussi comme 2 fois 3 fois 2, et aussi comme 2 fois 2 fois 3. Mais ce sont les seules possibilités d'écrire 12 comme un produit de nombre premier. D'ailleurs, avez-vous un nombre premier préféré ?
Quelle question de matheux !
Moi, j'aime bien le 17.
Ouais, moi aussi, en fait.
Un mathématicien français connu, Alexandre Grothendieck, a répondu une fois à cette question sans aucune hésitation. 91. Le plus drôle, c'est que ce n'est même pas un nombre premier, car 91 fait 7 fois 13. Mais c'est probablement le premier nombre qui semble à première vue être premier sans l'être.
Mais si je considère un nombre premier, ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même par définition, donc on ne peut pas le décomposer de la sorte.
C'est une remarque intéressante, mais en réalité, si. Il se décompose en un produit de nombre premier contenant seulement lui-même.
D'accord, mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est utile pour le cryptage.
Il faut comprendre qu'en pratique, calculer les nombres premiers qui interviennent dans la décomposition d'un entier est un travail qui prend du temps. Et ce, d'autant plus que l'entier en question est grand.
Même pour un ordinateur ?
Oui. Par exemple, on estime qu'avec nos méthodes de calcul actuelles, il faudrait en moyenne un temps plus long que l'âge de l'univers pour factoriser un nombre de 1000 chiffres.
Autant dire mission impossible. Et c'est donc sur ça que reposent les méthodes de cryptage.
En effet, le système de cryptage le plus connu est le système RSA, acronyme formé à partir des premières lettres des noms de ses inventeurs, Rivest, Shamir et Adelman. Il a été découvert en 1977.
Ah d'accord, moi je pensais que RSA c'était revenu de solidarité active. Mais bon, imaginons que je veuille transmettre un message secret à Alexander en utilisant le système RSA. Oui, celui des cryptologues, hein, pas celui de... voilà. Mais bon, comment dois-je faire ?
Tout d'abord, Alexander va trouver dans son coin deux grands nombres premiers, P et Q, et il calcule ensuite leur produit, qu'on appelle N.
Si je comprends bien, la décomposition de N en nombres premiers est donc P fois Q.
Oui, c'est ça. Il te transmet alors le nombre N dont tu te sers pour transformer ton message.
C'est-à-dire ?
C'est pas le plus important. En fait, la transformation en question fait juste intervenir des multiplications et des divisions à partir de n. Il faut surtout bien comprendre que c'est ce nombre n qui joue un rôle prépondérant.
D'accord. Et ensuite hein.
Ensuite, ben, tu envoies ton message à Alexander qui va pouvoir le décoder.
D'accord. Donc en fait, en refaisant la transformation que j'ai moi-même fait subir à mon message, mais dans le sens inverse.
Exactement. Et le point clé est qu'il peut le faire simplement parce qu'il connaît la décomposition de n en nombre premier, soit p fois q.
Autrement dit, une personne qui ne sait pas que n égale p fois q n'a aucune chance de décoder mon message.
C'est un exemple remarquable où la pratique fonctionne mieux que la théorie.
Tu veux dire hein ?
La sécurité de ce système repose sur le fait qu'on ne sait pas à l'heure actuelle factoriser n rapidement. Mais qui sait, dans un futur proche ?
Qui pourrait arriver bien assez tôt. De nouveaux types d'ordinateurs, les ordinateurs quantiques, sont en train d'être mis au point. Ce ne sont pas des ordinateurs plus puissants ou plus rapides, non. Ils diffèrent par leur façon de fonctionner qui repose sur des principes de physique quantique. Et le mathématicien Peter Shor a montré que grâce à eux, on pourrait casser le système RSA très facilement. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir réussi à construire un système suffisamment développé.
Et si on y parvenait, ça aurait de graves conséquences ?
Un peu oui. Le système RSA intervient dès que tu fais une transaction bancaire pour crypter tes codes d'accès ou bien dans le e-commerce. De nombreux logiciels l'utilisent, notamment pour l'armée.
Donc, il faudrait très vite trouver une solution de remplacement ou notre économie s'effondrerait.
Comme a déjà fait remarquer Corentin, pour l'instant, on n'est pas encore trop pressé car on essaye de construire des ordinateurs quantiques depuis des années et ils ne sont toujours pas très performants. En 2012, par exemple, un ordinateur quantique a réussi à décomposer 21 en 3 fois 7 en quelques jours, et il paraît que c'est le record actuel. On est encore très loin des nombres à plus de 100 chiffres qu'on utilise actuellement pour assurer nos transactions bancaires.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic.
Mais aussi, pour que cet algorithme fonctionne, nous devons connaître des nombres premiers suffisamment grands pour garantir la sécurité du cryptage.
D'où ce programme de recherche dont on parlait au début.
Oui, et il y a même d'importantes récompenses offertes à ceux qui découvrent de nouveaux nombres premiers.
Mais c'est si difficile d'en trouver de nouveaux. Tout à l'heure, on a réussi à en trouver assez facilement. 2, 3, 5, 7, 11, 13 et d'autres.
C'est parce que ces nombres sont petits. Mais si je te le dis 1 milliard 7 ou bien 1 milliard 521 458 683, je sais pas, saurais-tu me dire si ces nombres sont premiers ?
Bah, je dois chercher à savoir s'ils ont des diviseurs autres que 1 et eux-mêmes, en fait. Ou alors demander à Internet.
Tout à fait, ouais.
Donc, je n'ai qu'à essayer de les diviser par tous les nombres qui leur sont inférieurs pour trouver d'éventuels diviseurs. Ça fait quand même beaucoup de nombres à tester.
Tu vois le problème, hein ?
Ah oui, mais il y a une petite astuce. On n'est pas obligé d'essayer avec tous les entiers qui leur sont inférieurs. Il suffit de le faire avec ceux inférieurs à leur racine carrée.
La racine carrée, ça me rappelle quelque chose.
La racine carrée d'un nombre n est un nombre dont le produit avec lui-même vaut n. La racine carrée de 9, par exemple, vaut 3, car 3 fois 3 fait 9.
Et la racine carrée de 10 ?
Elle existe bien aussi. C'est un nombre entre 3 et 4. Si tu demandes à une calculatrice, tu trouves que la racine de 10 vaut à peu près 3,16, 22, 77, etc.
Et le lien entre la racine carrée et les nombres premiers ?
Si jamais ton nombre n'est pas premier, alors il s'écrit comme un produit de deux nombres, P et Q. Alors un de ces nombres doit être plus petit que la racine carrée de n, car sinon leur produit sera strictement plus grand que n. Du coup, pour savoir si n est un nombre premier, il suffit de tester si n n'est divisible par aucun p avec p comprise entre 2 et la racine carrée de n.
Donc, étant donné un nombre, savoir s'il est premier ou non requiert un nombre d'opérations proportionnel à sa racine carrée. C'est rapide.
En théorie, oui, mais en pratique, non. Plus un nombre est grand, plus un ordinateur aura du mal à le manipuler.
Mais du coup, il y a d'autres méthodes.
Oui, il y a par exemple une méthode connue depuis l'Antiquité, appelée le crible d'Ératosthène.
Ah oui, Ératosthène, savant grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, maîtrisant les mathématiques, la philosophie, l'astronomie et la géographie, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est lui qui nous a transmis la plus ancienne mesure de la circonférence de la Terre connue, si je ne m'abuse. On raconte même qu'il s'est laissé mourir de faim parce qu'il ne pouvait plus observer les étoiles, devenu aveugle.
On peut dire qu'il était passionné.
Et donc, comment fonctionne son crible ?
C'est une méthode plutôt indirecte pour trouver tous les nombres premiers jusqu'à un certain nombre fixé, par exemple 100. Pour ainsi faire, on barre tous les nombres divisibles par 2, 3, 5 et 7, en fait jusqu'à la racine carrée de 100, qui vaut 10, et ce qui reste sont les nombres premiers. Il faut juste pas barrer 2, 3, 5 et 7, évidemment.
Enfin bon, pour trouver de très grands nombres premiers, le meilleur moyen est d'effectuer le test de Lucas Lehmer sur les nombres de Mersenne.
Oh oui, bien sûr. Tu m'ôtes même les mots de la bouche, là.
Les nombres de Mersenne sont des nombres de la forme 2 puissance n moins 1, où 2 puissance n signifie qu'on multiplie n fois 2. 2 fois 2 fois 2 fois 2, tout ça n fois. Il s'avère que pour quelques valeurs de n, ce nombre 2 puissance n moins 1 est un nombre premier, par exemple pour n égale 3 ou n égale 5, car dans ces cas-là, on obtient 7 et 31 respectivement. Un résultat dit que pour que le nombre de Mersenne 2 puissance n moins 1 soit premier, il faut que n soit premier. On restreint donc la recherche de nombres de Mersenne premiers à ceux formés à partir d'un entier n premier. Or, on connaît un test assez efficace, le test de Lucas Lehmer, qui détermine si 2 puissance n moins 1 est premier pour n donné. C'est avec cette méthode qu'on cherche les nombres premiers les plus grands. Le nombre premier au début était de cette forme, par exemple.
Ce serait quand même plus simple si on pouvait trouver une formule qui donne le n-ième nombre premier.
Évidemment, mais malheureusement, une telle formule n'existe pas. Ou pas encore. Mais les mathématiciens ont cherché depuis l'Antiquité pour trouver une telle formule. Rien. Mais on peut essayer de trouver une formule approximative et puis la rendre de mieux en mieux. Avec la conjecture de Riemann, on aurait là une formule qui approche très bien les nombres premiers.
Tu veux dire si on parvient à montrer que les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann sont de partie réelle 1/2 ?
Ne m'oubliez pas, hein, je suis là, je veux comprendre.
C'est une des histoires les plus passionnantes des maths modernes, la conjecture de Riemann. Tu sais, les conjectures en maths sont très importantes parce qu'elles donnent la motivation pour beaucoup de recherches. On peut les comparer à des pics de montagne qu'on voit de loin sans connaître le chemin qui mène à ces sommets.
Ah, les scientifiques et les métaphores, quelle poésie!
Bon, quoi qu'il en soit, la conjecture de Riemann relie deux domaines mathématiques très différents, à savoir l'arithmétique et l'analyse complexe. L'arithmétique est la branche qui s'intéresse aux nombres entiers, et donc surtout aux nombres premiers. L'analyse complexe est une branche bien plus récente. Au XIXe siècle, on a commencé à comprendre qu'on peut décrire beaucoup de situations mathématiques, non pas avec les nombres réels, que nous trouvons intuitifs, mais par des nombres complexes. C'est comme si ce que nous observons n'est qu'une sous-partie d'un objet parfaitement symétrique.
Un peu comme le sommet d'un iceberg, en fait.
Métaphore.
C'est cela. Eh bien, Bernhard Riemann, un grand mathématicien allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle, a découvert un lien entre une certaine fonction sur ces nombres complexes et les nombres premiers. Aux endroits où cette fonction s'annule, il associe une sorte de vague et l'ensemble de ces vagues se superpose pour donner les nombres premiers. C'est de la musique.
Ah oui, oui, dit comme ça, ça a l'air très très intéressant, cette conjecture. Mais bon, ça ne m'empêche pas de pas vraiment pouvoir la comprendre.
Malheureusement, on ne connaît pas encore de démonstration pour cette fameuse hypothèse de Riemann. Mais au moins, on sait donner une valeur approximative du énième nombre premier.
Ah oui, c'est déjà ça. Et du coup, quelle est-elle, hein, cette valeur?
Le énième nombre premier est approximativement n fois ln de n.
Oui, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, log n.
Je ne peux pas t'expliquer en détail, ça nous amènerait trop loin. En gros, c'est l'opération inverse du puissance n qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux utiliser la touche ln de ta calculatrice pour faire le calcul.
Ah, renvoyer à une machine.
Comme je disais, l'hypothèse de Riemann est encore une question ouverte. Mais ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'on appelle le théorème des nombres premiers. Ce théorème donne l'approximation dont je t'ai parlé, là, n fois log n. Ce théorème était une conjecture pendant plus d'un siècle. C'était Carl Friedrich Gauss, probablement le plus grand mathématicien de tous les temps, qui a conjecturé ce théorème à l'âge de 15 ans, aux environs de 1793, à base des tableaux de nombres premiers qu'il avait calculés lui-même. Ce n'était qu'en 1896 que deux mathématiciens, à savoir Jacques Adamar et Charles Jean de la Vallée-Poussin, ont trouvé une démonstration de manière indépendante. Leur démonstration utilisait aussi l'analyse complexe. Une démonstration élémentaire, entre guillemets, c'est-à-dire dans le cadre de l'arithmétique, a été donnée dans les années 1930 par Etzelberg et Polerdeutsch. La conjecture de Riemann est en fait une version beaucoup plus fine de ce théorème des nombres premiers, ce qui donne alors une approximation bien meilleure pour le énième nombre premier. Pour conclure, dans le domaine des nombres premiers, il y a toujours beaucoup de conjectures. Un autre exemple est la conjecture de Goldbach, selon laquelle on peut écrire tout nombre pair plus grand que 2 comme une somme de deux nombres premiers. Mais avec des méthodes des mathématiques modernes, on commence à percer quelques mystères de la structure presque aléatoire des nombres premiers.
Tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, mais si on veut rentrer plus en détail, ça se complique.
Vas-y, je m'y connais un peu.
Mais attendez, tout à l'heure, j'ai entendu un matheux dire une phrase bizarre. Qu'est-ce que c'était déjà ? Quelque chose comme Z est un groupe et même un anneau, mais ce n'est pas un corps.
Ah, je vais voir si je peux éclairer ta lanterne, Pauline. Z est un groupe et même un anneau, mais ce n'est pas un corps. Aurions-nous un justicier masqué en mathématiques ? Un groupe secret qui rend la justice dans la communauté et qui laisse sur son passage sa distincte marque de fabrique, un net et tranchant Z ? Mais d'abord, que peut bien vouloir dire ce Z ? Est-ce le rusé Zorro qui subitement s'est découvert une passion pour la science des chiffres ? Ou bien est-ce le polémique Zorn qui revient encore et toujours sur le devant de la scène, n'en déplaise à Denis Serre ? Eh bien, les amis, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une façon pédante de désigner les nombres qui nous servent à compter, 0, 1, 2, 3, 4, etc., ainsi que leurs opposés ou opposants, j'ai nommé les entiers négatifs. Bien entendu, ils peuvent servir à d'autres choses, mais je vous déconseille de les utiliser pour faire votre café le matin. Mais alors, on me dit qu'ils formeraient un groupe. J'enrage ! Encore un de ces affreux syndicats qui sèment la révolte et tapent sur le patronat. Tous les mêmes, munis d'une loi de composition interne, car l'addition de deux entiers est toujours un entier, ils se barricadent dans l'associatif sans problème de parenthésage, non. Bon, ils possèdent parmi leurs rangs un élément neutre. Même s'il est nul, ce peut être un atout, car tous se positionnent autour de lui. Tel entier et son opposé lui sont équidistants. Ce groupe est en fait plus stable qu'il n'y paraît. C'est une communauté, la communauté de l'anneau des entiers. Car à la première vient s'ajouter une deuxième loi. Elle stipule que les entiers se multiplient pour donner naissance à d'autres entiers, l'associatif aidant évidemment. Seul un ne favorise pas la diversité, puisque lui aussi voit cette loi de façon neutre. Mais à ceux qui se demandent si les deux lois qui régissent la communauté de l'anneau des entiers sont compatibles, je répondrai « Oui, développez !» Mais rien n'est parfait, et la communauté de l'anneau des entiers n'a pas la force de s'étendre en plus ample structure. Son âme est puissante, mais elle reste sans corps. Hélas, les amis, la division sort de ses frontières. Mais c'est une autre histoire dont nous reparlerons. Une histoire de cul.
Ouais, enfin bon, tout cela c'est bien joli, mais je crois que ça m'aide pas beaucoup.
C'est vrai. Disons que les mathématiciens aiment bien trouver des structures abstraites qui sont véritablement derrière certains phénomènes. Ces structures portent des noms bizarres comme groupe, anneau ou corps. Ce sont des structures de plus en plus riches. L'ensemble des nombres entiers, appelés Z, admet une structure d'un groupe et aussi d'un anneau, mais il n'est pas assez riche pour être un corps. Pour cela, il faudrait considérer les nombres rationnels qu'on appelle Q.
Ouh, je commence à avoir le tournis. J'ai compris pas mal de choses aujourd'hui. Enfin, je crois. Bon, merci quoi qu'il en soit à vous deux. Mais maintenant, franchement, je vais me reposer.
Ok, salut Pauline, à la prochaine.
À bientôt.
Alors maintenant qu'on est entre nous, Alex, on peut passer aux choses sérieuses ?
Oui, bien sûr. Laisse-moi réfléchir. Tu connais la série harmonique ?
La somme des inverses des entiers naturels, 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus etc.
C'est cela. Tu sais qu'elle diverge, c'est-à-dire qu'elle n'admet pas de valeur finie et va croître jusqu'à l'infini malgré le fait que 1 sur n devient de plus en plus petit ?
Ah oui, oui, j'ai entendu parler de ça. On le prouve en regroupant les termes qui sont compris entre des puissances de 2, c'est ça ?
Tu as encore raison. La somme des inverses des nombres entre 2 puissance n et 2 puissance n plus 1 vaut 1/2. Et du coup, on peut regrouper cette somme en paquets de 1/2, et 1/2 plus 1/2 plus 1/2, etc. divergent. Ce qui est moins connu, c'est que la somme des inverses des nombres premiers diverge aussi.
Waouh, je savais pas. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de nombres premiers ?
C'est cela. Avec le théorème des nombres premiers, on peut facilement montrer mon affirmation. Le n-ième nombre premier vaut approximativement n fois log n. Et on peut minorer alors la somme des 1 sur n log n par une intégrale. Une intégrale entre 1 et plus infini de 1 sur t log t. Et par miracle, on connaît une primitive de cette fonction, à savoir log de t, qui tombe à l'infini quand t tombe à l'infini.
Waouh, la classe !
Il y a encore mieux. Tu connais probablement les nombres premiers jumeaux.
Bien sûr, deux nombres premiers de différence 2, un peu comme 11 et 13.
Ou comme 101 et 103. L'infinité des nombres premiers jumeaux est toujours une conjecture. Mais on sait que la somme des inverses des nombres premiers jumeaux converge vers 1,9, 0, 2, 16, etc. Ce qui montre, en quelque sorte, qu'ils sont bien moins nombreux.
Et c'est difficile à montrer que cette somme converge ?
En fait, pas tant que cela, car on peut donner une minoration grossière du n-ième nombre premier jumeau, et donc une majoration de la somme des inverses. Et tout cela est lié au théorème de Green et de Tao de 2002 sur les progressions arithmétiques.
Ah, c'est le théorème selon lequel, dans chaque progression arithmétique sans facteur commun global, il y a une infinité de nombres premiers ?
Non, cette fois-ci, pas tout à fait. Ah. C'est un autre théorème célèbre, le théorème de Dirichlet, que tu viens d'énoncer. Ici, la situation est renversée. Au lieu de chercher des nombres premiers dans des suites arithmétiques, on cherche des suites arithmétiques dans les nombres premiers. Et du coup, le théorème de Green et de Tao dit que, il existe des progressions arithmétiques arbitrairement longues dans l'ensemble des nombres premiers. Par exemple, 3, 5, 7, c'est une progression arithmétique de longueur 3 dans les nombres premiers. La démonstration de Green et Tao est un feu d'artifice faisant intervenir plusieurs domaines mathématiques différents.
Et d'accord, mais le lien avec la somme des inverses ?
D'après une conjecture d'Erdős, un ensemble de nombres entiers dont la somme des inverses diverge contient des progressions arithmétiques arbitrairement longues. Les nombres premiers ne sont qu'un cas particulier. La conjecture, en toute généralité, est encore ouverte.
Ah, il reste donc pas mal de travail pour les mathématiciens, si je comprends bien.
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so.
Tiens, Corentin, j'ai encore une petite énigme à te proposer.
Ah, j'écoute.
Il était une fois un général chinois qui voulait connaître le nombre exact de soldats de son armée. Il savait que ce nombre était à peu près entre 10 et 1000. Et quand il leur ordonne de se mettre en groupe de 5, il reste un certain nombre de soldats, entre 0 et 4, qui se trouvent être un nombre premier. Le même phénomène arrive quand il leur commande de se mettre en groupe de 7, 11, 13, 17, 19 et aussi 23. C'est-à-dire lorsqu'ils se mettent par exemple en groupe de 7, il y a un certain nombre de soldats restants qui se trouvent être un nombre premier. Et je répète, c'est le même phénomène qui va arriver avec 11, 13, 17, 19 et 23. Peux-tu me dire alors le nombre de ces soldats ? Et est-ce que c'est un nombre premier ?
Eh bien, chers auditeurs, si jamais vous avez la chance, le talent, l'intelligence de finir premier sur cette énigme concernant les nombres premiers, eh bien, nous aurons le plaisir de vous nommer sous le nom qui vous sied à la prochaine émission pour vous déclarer vainqueur de l'énigme. Cela dit, évidemment, on sait maintenant que, grâce à la cryptologie, nous parviendrons à déchiffrer qui se cache derrière les pseudos que vous nous fournirez.